dialogue
sigi ka foba
edowani wa maqaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne biro
halud maundi
chenne biri sigi ka foba
le grand dialogue
le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue du jour. Nous sommes jeudi 8 janvier 2015. Merci de nous recevoir chez vous. Nous parlons aujourd'hui de l'immigration. Nous ferons le point avec nos invités. Et parmi nos invités, nous avons l'occasion de recevoir aujourd'hui le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine en la personne de Abdramane Sylla. Bonjour, Monsieur le ministre.
Bonjour.
En plus de Monsieur le ministre, nous avons Ousmane Diarra de l'Association malienne des expulsés. Et enfin, Madame Diarra Mariam Savané du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur. Merci et bienvenue à vous.
Merci bien.
Je suis Famoussa Sidibé, Nuhumdiré est à la technique.
Studio Tamani.
La contribution annuelle de la diaspora malienne au développement du Mali est estimée à près de 500 milliards de francs CFA, soit 8,3% du produit intérieur brut. Les artisans de cette œuvre monumentale sont éparpillés aux quatre coins du monde. C'est dans la première région, à Kaï, que la réussite de cette diaspora malienne s'exprime avec brio. Souffrant d'un enclavement chronique, chaque bourgade de cette région partage une histoire avec une ville du monde. Nous allons donc tenter de savoir comment est-ce que cette diaspora se rend dans les quatre coins du monde avec nos invités. Tout d'abord, a-t-on une idée, Monsieur le ministre, précise du nombre de Maliens qui partent dans le monde?
Il est difficile actuellement de dire exactement le nombre de Maliens qui partent à l'extérieur, compte tenu de la manière dont ils partent. Ils ne partent pas tous de façon légale. Et je pense que ceux qui partent, qui sortent par les aéroports, les routes, qui obtiennent des visas, les statistiques peuvent être disponibles. Mais le grand lot partent vraiment sans autre formule. Ils prennent les voies vraiment qu'ils estiment les conduire à destination. Et voilà un peu. C'est extrêmement délicat de parler de statistiques à ce niveau-là. Et je voudrais profiter de votre micro vraiment pour saluer l'ensemble des auditeurs. Et donc, vous remercier également de l'occasion que vous nous donnez de pouvoir évoquer cette question-là, une question d'actualité présente, et donc de l'aborder sous tous ses aspects. Je vous remercie infiniment.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir fait le déplacement. Nous sommes ensemble pour 45 minutes autour de ce sujet, l'immigration. Alors, quelles sont les régions, madame, avec vous, du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur? Nous allons voir avec vous si actuellement il y a des régions qui enregistrent un taux plus élevé que d'autres parmi ces régions-là. Quelles sont ces régions en dehors de Kaï? Quelles sont ces régions qui enregistrent le plus grand taux de personnes qui émigrent vers l'Europe, vers le Sud?
Merci. Je me joins bien sûr à Monsieur le ministre pour vous remercier d'avoir pensé à nous pour ce plateau. Ceci étant, de nos jours, il est difficile de parler de régions qui, en nombre, est partant vers l'extérieur. Avant, c'était la région de Kaï, bien sûr. Mais présentement, nous estimons que c'est la région de Sikasso. La région de Sikasso, la troisième région depuis quelques années. Mais d'une manière générale, le taux de départ dans toutes les régions, maintenant, c'est la même chose. C'est la même chose.
Alors, nous avons la chance également d'accueillir M. Diarra, Ousmane Diarra, de l'Association malienne des expulsés. M. Diarra, dites-nous quels sont ces expulsés et d'où viennent-ils?
Alors, merci beaucoup de nous inviter, surtout une association de la société civile qui défend les droits des migrants. Et vous savez, notre organisation qui est composé uniquement que des expulsés. Et les expulsés viennent un peu partout dans le monde, en Afrique, en Asie et en États-Unis. Ils sont là tous les jours. C'est pour cela, les expulsés eux-mêmes, on a initié de créer cette structure pour pouvoir défendre et orienter des migrants de retour involontaire. Et c'est une première association créée par les expulsés, je peux dire, dans le monde. Auparavant, quand même, il y avait des associations qui défendaient les migrants, comme le Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur, comme d'autres structures, des ONG. Mais cette fois-ci, les migrants eux-mêmes, surtout des migrants de retour involontaires, qui viennent de créer cette organisation. Donc, pour vous rappeler, l'association est créée en 1996. Je vous rappelle, en 1996, il y avait beaucoup de Maliens qui étaient en France sans papier, et d'ailleurs qui étaient réfugiés dans l'église Saint-Bernard. Malheureusement, après tous les refus dans les églises, ils ont été victimes de l'expulsion
vers
leur pays d'origine. Aussi bien que l'Angola en 1996, l'Arabie Saoudite qui est toujours en vigueur, et les rapatriements volontaires des Maliens en Libéria à l'époque parce qu'il y avait la guerre.
D'accord. Alors nous allons revenir vers vous pour cette question justement de l'Angola qui occupe une grande partie de l'actualité en ce moment. Juste avant, nous allons demander à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, 8,3% de contribution au produit intérieur brut, ce n'est pas rien. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous avez un droit de regard dans la gestion de ce contingent africain-là qui vont s'échouer sur les côtes européennes?
Je voudrais d'abord vous dire que 8% du PIB, ce n'est rien. Ce n'est pas rien, je veux dire, dans l'économie nationale. Vous avez parlé d'environ 500 milliards de francs CFA de transfert d'argent par an. Vous remarquerez et du coup que c'est supérieur, ce montant est supérieur à toutes les formes d'aide directe au développement que nous recevons. Ce qui traduit à la fois l'importance du rôle de la diaspora malienne à l'extérieur. Et quelque part, cela fonde aussi à croire vraiment que notre diaspora pense énormément à notre pays. Alors, cet argent, effectivement, est réparti à 80% dans les ménages. Dans les ménages. Ils servent à 80% à soutenir les ménages. Alors, il y a 15% qui sont investis environ dans des infrastructures de développement, mais il n'y a que 5% qui revient à des projets productifs. Ceci est un souci que nous avons actuellement parce que nous estimons qu'il faut réorienter ces chiffres-là, faire en sorte que cette manne financière soit majoritairement investie dans la production.
Alors, Monsieur le ministre, pour pouvoir produire tout ça, il faut bien pouvoir se rendre dans les pays européens ou bien dans les pays du Sud. Alors que là, il y a une barrière, il faut traverser cette mer qui enregistre, que certains considèrent comme un cimetière flottant. Quelles sont vos mesures, vous, au niveau de votre département, pour canaliser tout ce flux de migrants?
Oui, c'est très dommage. C'est un souci majeur que nous avons au niveau de notre département. Vous remarquerez que notre département a pris ce problème à bras le corps depuis notre arrivée pour essayer d'arrêter autant que nous pouvons par les campagnes de sensibilisation que nous menons pour dire aux jeunes qu'on ne peut pas empêcher les migrations, mais il faudrait que les jeunes réfléchissent par les voies par lesquelles ils veulent s'émigrer. Je suis personnellement allé en Italie pour constater effectivement ce que représente ce drame. Et je ne peux pas vous dire ici combien j'ai été personnellement très émotionné par ce que j'ai vécu sur place. Alors, pour dire aujourd'hui, ce problème, l'État et le gouvernement du Mali est en train de réfléchir sur tous les moyens possibles pour pouvoir apporter une solution à ce fléau. Je le qualifie de fléau. La première solution qui s'offre au gouvernement dans la méthodologie, c'est d'abord d'adopter un document. Et ce document de politique nationale migratoire a été donc adopté le 3 septembre dernier et qui comporte un plan d'action. Ce plan d'action, je pense que dès à présent, nous allons donc essayer donc de procéder à sa mise en œuvre. Nous travaillons ardemment et je pense que ce plan d'action s'articule sur un certain nombre d'actions majeures. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'investissements dans les zones de départ pour créer de la valeur ajoutée, pour donner de l'emploi aux jeunes et éviter donc qu'ils ne partent n'importe comment à l'extérieur. Et une deuxième option, donc, que ceux qui doivent partir, il faut qu'ils partent de la façon la plus légale possible et qu'ils soient aussi protégés par la manière donc de partir. Donc voilà, entre autres, ce document majeur. Mais je vous dis très sincèrement que c'est un souci que nous avons au niveau de notre département. Nous travaillons quotidiennement. Je viens seulement de recevoir, juste à la veille de la fête, une équipe qui avait déjà fait un tour dans le cercle de Nyoro, dans le cercle de Yélimané et dans le cercle de Kaï. Avant cette équipe-là, il y a une équipe qui avait déjà sillonné tout le cercle de Bafoulavé également. Sans compter nous-mêmes nos nombreuses sorties, un peu à destination de ceux qui les invitent à venir. Parce qu'il faut reconnaître que quand les jeunes vont, ils ont toujours une adresse en poche. C'est soit un frère, un cousin, un tonton qui les invite. Donc ceux-ci se trouvant à l'extérieur, nous-mêmes nous partons un peu vers eux pour leur dire vraiment de réfléchir. Vous avez parlé de cimetière. Cette Méditerranée qui est devenue aujourd'hui un cimetière flottant, c'est très triste. Effectivement, il y a énormément de noyades. Aujourd'hui, on parle de plus de 20 millions de personnes noyées dans l'océan. Le chiffre est faramineux, mais personne ne peut dire avec exactitude ce qui se passe. Mais on peut témoigner que c'est en longueur de journée que les bateaux chavirent, que ces embarcations de fortune n'arrivent pas à destination et qu'il y a des pertes de vies humaines énormes. Ce qui avait poussé le gouvernement italien dans un premier temps à décider de l'opération qui s'appelait Mare Nostrum, mais qui est arrivée à terme et qui est remplacée aujourd'hui par une autre opération qu'on appelle Frontex. Donc, mais nous...
En quoi visent ces projets ?
Mare Nostrum était très humanitaire parce qu'ils ont compris que les migrants venaient un peu chez eux, donc ils les accueillaient pour éviter vraiment des naufrages. Donc l'Italie les recevait. Et quand l'Italie les recevait, l'Italie les répartissait entre ces régions en essayant de leur donner un papier, une chance. D'accord. Maintenant, cette opération n'est pas vue de la même façon par les autres pays européens qui ont demandé de le remplacer par Frontex. Et Frontex est un peu agressif. Je veux dire, Frontex n'a pas le même contenu humanitaire et que Mare Nostrum. Donc aujourd'hui, ça pose vraiment des débats très sérieux. Nous avons eu l'occasion d'en évoquer au cours de notre réunion ministérielle là, qui s'est tenue récemment en Italie, pour dire vraiment qu'il faut réfléchir suffisamment sur cette question-là.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie de cette émission qui parle bien évidemment de l'immigration.
Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani.
Merci de rester avec nous. Studio Tamani, le débat se poursuit sur notre page Facebook Studio Tamani, notre compte Twitter et également sur notre site web www.studiotamani.org. Alors, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui avec le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, accompagné de Ousmane Diarra de l'Association malienne des expulsés et de Madame Diarra Mariam Savané du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur. Et nous débattons de l'immigration. Vous venez donc d'entendre les propos du ministre sur cette mer de la Méditerranée qui enregistre beaucoup d'Africains décédés voulant rejoindre l'Europe. Alors nous sommes donc à la deuxième partie de l'émission qui est consacrée aux conséquences de l'immigration. Cette immigration a de nombreuses conséquences. Peut-on énumérer certaines de ses conséquences avec vous, madame du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur?
Bon, énumérer les conséquences, moi, je... Les conséquences, d'abord, c'est les pertes humaines. Les jeunes qui vont, qui quittent leur pays, pensant qu'ils vont dans un Eldorado, et finalement, ça se solde par la mort. Là, c'est réellement la conséquence qu'on peut directement parler. Et en plus de ça, c'est les familles qui sont endeuillées. Monsieur le ministre vient de vous dire que il y a une équipe qui vient de sillonner la région de Kaï et le cercle de Nioro. Je faisais partie de cette équipe-là. Et j'avoue que c'est triste. Les familles sont endeuillées. Nous avons vu certaines familles qui ont perdu 5 de leurs membres. Alors, 5 jeunes disparus en un temps record, c'est très triste. Donc là, c'est une deuxième conséquence. Et ensuite, il y a même une conséquence économique, parce qu'il n'y a plus de bras valides dans ces familles-là. Le jeune voulant partir pour chercher ce qu'il n'a pas, et ça se solde par un décès, donc ça crée un vide au niveau de la famille. Donc il y a un manque à gagner. Donc les conséquences sont vraiment... c'est grave. Donc nous faisons tout pour sensibiliser et au niveau du Mali et au niveau des pays d'accueil. Parce que dans ces pays d'accueil, quand même, nous avons une représentation des Maliens par le biais du Haut Conseil des Maliens extérieurs. Bien sûr, il y a les ambassades, mais la gestion de la communauté est confiée au Haut Conseil des Maliens extérieurs qui est représenté dans ces pays par un conseil des Maliens de l'extérieur. Donc nous procédons aussi, bien sûr, par des sensibilisations à dire à ces parents qui incitent à leurs frères à les rejoindre, vraiment de chercher des moyens. On ne peut pas stopper la migration, on ne peut pas, mais de chercher des voies et moyens, aller en bonne forme, avec des papiers qu'il faut, et sans aller se faire tuer sur la mer. Donc la sensibilisation, elle est au Mali, et dans les zones, dans les pays d'accueil. Voilà.
Alors, nous avons un représentant d'une association d'expulsés en la personne de Ousmane Diarra. Ousmane Diarra, dites-nous quels sont les programmes de réinsertion des expulsés au Mali.
Bon, et moi je pense que le Mali n'a pas, au niveau du gouvernement, je n'ai pas vu le programme de réinsertion des migrants de retour involontaires. Comme il y a des programmes des migrants de retour volontaires, il peut y avoir des programmes de retour involontaire, mais je n'ai pas vu d'abord. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de... Monsieur le ministre vient de parler de Frontex. On est en train de parler de campagnes de sensibilisation à des migrants potentiels et leur famille et l'entourage familial. Et c'est vrai, parce qu'il faut bien analyser la question de la migration. Aujourd'hui, si c'est Lampedusa, si c'est vers Ceuta et Melilla, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des victimes, des Africains. Les causes de départ sont bien connues. Canada, l'immigration sont bien connues. Et aujourd'hui, je pense que le pays d'accueil qui est l'Europe, qui a l'ère politique de la migration, aujourd'hui qui est, je peux dire, qui est échoué, parce que ça a causé beaucoup de drames, de pertes humaines, et que les gens viennent toujours en France. Moi, je peux prendre l'exemple. Nous, au niveau de l'aéroport de Bamako, au sein de notre organisation, on a accueilli beaucoup de migrants expulsés de l'Europe. Mais au bout de quelques mois, ces mêmes migrants expulsés qui arrivent ici, au bout de quelques mois, tu le trouveras dans le même pays d'où il était expulsé. Donc on peut dire la politique européenne est échouée. La coopération entre le pays du Sud et le pays du Nord doit être encore réfléchie, parce qu'on a, constaté les projets du développement. D'ailleurs, en 97, il y avait même un projet français qui était dirigé vers la région de Kaï, qui était le projet du développement. Bon, ça a été commencé, mais la suite a été comment?
Il n'y a pas eu de suivi.
Et aujourd'hui, on nous parle de projet de co-développement. Effectivement, la perte humaine, c'est très douloureux, comme madame vient de le dire. Mais ensemble, la société civile et le gouvernement, quelle réponse on doit donner? Quelle campagne de sensibilisation qu'on doit faire, nous, la société civile, quelle dénonciation on doit faire vers le pays d'accueil qui ont leur politique fermée, qui est en train de fermer. Le Frontex, aujourd'hui, a tué des milliers de personnes. On sait les pays tampons qui sont là pour fermer la porte de l'Europe. On sait les accords bilatéraux, les accords de réadmission, les accords les accords de l'Union européenne et les pays ACP. Donc il y a plein de choses qui doivent être révisées pour qu'on puisse vraiment canaliser la migration vers les pays du nord ou du sud. Monsieur le ministre vient de parler de la politique nationale sur la migration. Oui, effectivement, c'est déjà présenté à l'Assemblée nationale, mais l'application doit être faite.
C'est défaut.
Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que... Je n'ai pas dit défaut directement, mais comment on doit faire? On doit faire l'application. Et quel sera le rôle de la société civile? Quel sera le rôle du gouvernement? Parce que nous aussi, on a fait de gros travail sur la migration. Une organisation qui existe pendant 18 ans. Bientôt, on va fêter notre 20e anniversaire. Donc, ça veut dire que on a beaucoup travaillé sur la question de la migration.
D'accord. Alors nous allons poser donc cette question au ministre qui est avec nous, Abdramane Sylla, ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des programmes de réinsertion des expulsés involontaires au Mali?
Je suis surpris d'entendre que le gouvernement n'a rien fait dans ce domaine-là. Alors il y a la cellule de co-développement existe depuis 1998. Et il y a un accord signé dans ce domaine avec l'AFD, la France, qui injecte énormément de ressources, l'Agence française de développement, et même le gouvernement français, y compris tous les partenaires qu'ils ont autour d'eux, comme l'OFI, qui injecte beaucoup de ressources. Et ces ressources servent justement à intégrer les Maliens de retour. Et je crois qu'il y a plus d'une
volontaire et involontaire.
Oui, volontaire. Il y a plus d'une soixantaine de projets qui ont été financés par cette cellule-là. Sans compter un peu toutes les formes d'assistance auxquelles la cellule est en train de faire face. Nous sommes en train de multiplier effectivement les possibilités à ce niveau-là parce que tantôt il a parlé de notre politique nationale migratoire qui vient d'être adoptée. Le document n'a pas été encore ventilé. Donc sa mise en œuvre va reposer effectivement à la fois sur le gouvernement, mais sur l'ensemble des acteurs. Tout le monde est interpellé par cette politique nationale. Dès que la phase opérationnelle va rentrer en vigueur, je pense que nous aurons M. Diarra avec nous pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut réussir à faire ensemble. Je voudrais préciser la chose suivante. Vous savez, quand vous parlez de d'émigration, nous sommes souvent très braqués par rapport à l'Europe. Aujourd'hui, l'émigration ne concerne pas que les pays européens. C'est ça l'erreur. Il y a évidemment un phénomène très médiatisé, c'est lorsqu'il s'agit de traverser la Méditerranée pour atterrir en Italie ou dans un pays européen. Mais nous oublions en même temps le grand lot de nos parents qui vont dans d'autres pays africains. Et ceci, évidemment, il faut le noter parce que lorsqu'on parle de plus de 4 millions de Maliens à l'extérieur, en Afrique, nous avons au moins seul de 3 500 000. Donc on a très peu par rapport vraiment aux pays européens. Donc c'est une question épineuse et qui est préoccupante à tout point de vue. Tantôt, on a évoqué les conséquences de cette immigration. Il s'agit là plutôt de la forme irrégulière de la migration. C'est-à-dire que se cacher pour partir, se cacher pour entrer dans un pays qui nous pose des problèmes. Et c'est cette formule-là qu'il faut peut-être y mettre fin. Parce que c'est ce qui amène les enfants à la mort. S'ils ne meurent pas dans le désert, ils meurent dans les eaux de l'océan. Donc c'est ce que nous dénonçons le maximum possible.
D'accord.
Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont liées à cela. Il a perdu la perte de main-d'œuvre. Déjà, en partant, on laisse vraiment une partie vide au niveau du tiroir qui n'est plus travaillée. Donc, ceci, la réponse, effectivement, se trouve aussi dans notre document de politique nationale migratoire. Parce que, comme je l'ai dit, il s'agit là vraiment de bâtir des projets productifs, des projets qui créent à la fois la main-d'œuvre, mais qui va aussi créer de la valeur ajoutée pour booster notre économie. Donc, c'est un travail qui n'est pas aisé. Nous sommes un pays pauvre, on ne s'en cache pas. Si les gens vont à l'extérieur, c'est parce que quelque chose leur manque dans leur pays. Nous en sommes conscients. Mais nous disons que notre pays ne pourra être bâti qu'avec nous-mêmes.
D'accord.
Maintenant, il faut repenser simplement par nous. Il faut repenser un peu tout ça là, mettre tout ça dans un panier et puis y extraire vraiment les meilleures solutions, les solutions les plus appropriées, les solutions les plus adéquates qui peuvent être appliquées.
Alors, Monsieur le Ministre, cette question, vous êtes très attendu sur cette question. Depuis un certain temps, on constate également une ruée des bras valides vers les pays du sud de l'Afrique, notamment l'Angola, où ça ne se passe pas aussi bien. Les Maliens, depuis un certain temps, quels sont les retours que vous avez de ce pays-là sur la condition des Maliens qui y vivent?
Au mois de février 2014, j'ai conduit une délégation de mon département en Angola. Pendant mon séjour en Angola, j'ai rencontré à la fois la communauté malienne, mais j'ai rencontré les autorités angolaises, notamment le ministre des Affaires étrangères de l'Angola et le ministre de l'Intérieur de l'Angola, qui a donc en charge la question de séjour de nos compatriotes. On ne fait pas des étrangers. Alors, il se trouve que l'Angola est un pays riche, comme vous le savez, et donc tous les pays riches sont convoités et ils reçoivent énormément d'étrangers. Alors, pour donc être régularisé en Angola, il faut d'abord prouver que vous êtes rentré en Angola de façon légale. C'est-à-dire qu'il faut que vous bénéficiez d'un visa légalement obtenu, ce qui n'est pas le cas pour la grande majorité de ceux qui arrivent. Ils viennent un peu par les voies terrestres, ils viennent par les eaux à partir du Congo, ils rentrent n'importe comment en Angola. Donc, ils ne peuvent pas remplir cette première condition. Et si vous ne le faites pas, vous n'avez pas droit à un séjour. L'autre condition difficile en Angola, lorsque vous travaillez en Angola, vous avez droit à un permis de travail qui est valable pour 3 ans. Au bout de 3 ans, vous devrez quitter le pays pour aller prétendre ensuite à un visa afin de revenir travailler, ce qui n'est pas facile à obtenir. L'autre condition, l'autre difficulté, c'est aussi dans le cadre du regroupement familial. Vous pouvez être marié, votre épouse se trouve ailleurs, vous résidez en Angola, vous avez des papiers légaux qui vous permettent de vivre en Angola, mais lorsqu'il s'agit de faire venir votre épouse, ça pose problème. Donc l'Angola est un pays un peu délicat aujourd'hui en termes d'absorption donc de migrants. Nous avons posé tous ces problèmes-là avec le gouvernement angolais. Alors, il y a présentement une commission que nous sommes en train de mettre en place, une commission paritaire entre l'Angola et nous, qui va donc se pencher sur cette question-là. Cette question afin vraiment d'apporter une solution aux difficultés auxquelles nos parents sont confrontés là-bas en Angola. Les Maliens sont nombreux.
Alors, Monsieur le Ministre, que répondez-vous à ceux qui disent que certaines personnes qui sont maltraitées de la sorte ont des papiers en bonne et due forme?
Si vous faites référence aux événements récents, je regrette beaucoup, c'est ça aussi quelquefois le revers des médias, qui ont dû utiliser des images très, très anciennes, des images qui datent de l'époque du conflit entre le MPLA et le truc de l'UNITA de Savimbi. Donc des gens ont été arrêtés et torturés. Et puis donc ce sont ces images-là qui ont réapparu devant les écrans pour dire que c'est cette façon dont on est en train de travailler. Ça, je me porte en faux parce que nous avons notre représentation diplomatique en place. Nous avons le bureau du Conseil des Maliens de l'extérieur en Angola qui se sont rendus sur les lieux, qui nous apportent la preuve que aucun d'entre eux n'est maltraité. Aucun. Ils peuvent dire qu'ils n'ont pas la nourriture qu'ils souhaitent manger. Ils peuvent dire qu'ils n'ont pas le lit dans lequel ils ont l'habitude de dormir. Ça, c'est une prison. Ce n'est même pas une prison, c'est un centre de détention. Donc, ils n'ont pas les accommodités auxquelles ils sont habitués ordinairement. Mais ils ne sont pas battus. ils ne sont pas insultés, ils sont là parce qu'ils n'ont pas de pièces. Je voudrais préciser la chose suivante en profitant de votre micro.
Allez-y.
Que ceux qui ont dit ou divulgué la rumeur qu'il y a 3000 Maliens, 2000 Maliens, je dis dans tout ça, il n'y a rien de vrai dans cela.
Il y a combien de Maliens ?
Il y avait 46 Maliens arrêtés, 10 ont été libérés. Il reste présentement 36 qui n'ont pas de documents, qui ne peuvent pas attester, qui n'apportent aucune preuve de séjour là-bas. Donc ils sont en attente d'être expulsés. Même à ce niveau-là, le Haut Conseil des Maliens qui se trouve en Angola m'ont rassuré qu'ils sont en train de travailler afin d'obtenir leur libération pour ne pas les laisser venir au Mali.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous allons observer 2 secondes de pause et nous revenons.
Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, nous ne cesserons jamais de le dire, c'est notre page Facebook, Studio Tamani, et également notre compte Twitter. Mais n'oubliez surtout pas de faire un tour sur notre site web où vous pouvez suivre en direct ou en différé cette émission Le Grand Dialogue et nos 5 journaux en langue. Alors nous sommes donc dans Le Grand Dialogue qui parle de l'émigration aujourd'hui et nous avons le privilège de recevoir le ministre Abderrahmane Sylla, ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, et également Ousmane Diarra de l'Association malienne des expulsés et Madame Diarra, Mariam Savané du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur. Cette troisième partie est consacrée, nous l'avons effleurée un moment dans la première partie, mais nous revenons sur la contribution de la diaspora à l'économie malienne. L'immigration, c'est aussi la diaspora. Cette fragilisation, nous allons donc parler de la situation très fragile des Maliens qui émigrent vers les pays étrangers. Madame, nous allons voir avec vous la situation de ces Maliens-là, la fragilisation. Est-ce qu'il y a toujours ce problème identitaire pour les Maliens? Nous l'avons vu lors du conflit centrafricain, la difficulté qu'avaient les Maliens nés en Centrafrique et qui devaient quitter le pays avec de simples baluchons. Peut-on s'insérer dans un pays comme ça? Est-il facile?
Ce n'est jamais facile. Mais je vais un peu revenir sur les propos de Monsieur le ministre.
Allez-y.
Concernant le document de la politique nationale migratoire. C'est un document qui a été élaboré avec presque tous les acteurs de la migration. Et nous avons commencé ce travail depuis pratiquement 2008-2009. Donc le parcours a été long et c'est cette année, effectivement, que le document vient d'être adopté. Et avec un plan d'action. Et ce plan d'action est à l'endroit des zones de départ. Comment freiner cette manière d'aller qui vraiment devient un fléau qui d'atteindre à la vie des jeunes qui aspirent à aller à l'extérieur. Ça, c'est un premier point. Un second point, qu'est-ce qu'il faut faire à l'endroit de ces jeunes et de ces zones de départ pour qu'il y ait moins de partants. Parce que quand on veut dire à un jeune de ne plus aller à l'extérieur, il faudrait proposer quelque chose à ce jeune-là. Donc, le document de la politique prend tout ça en compte. Maintenant, pour revenir à votre question, vous dites...
Je disais que la fragilisation aujourd'hui des conditions dans les pays d'accueil pourrait faire en sorte que le Mali ne puisse plus bénéficier de cet apport de la diaspora. Quelles sont les politiques mises en œuvre pour protéger les Maliens de la diaspora sur leur pays, dans leur pays d'accueil?
Bon, la première politique, c'est d'abord la création du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur. Parce que le Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur a été créé sur une volonté politique de l'État, une manière d'organiser les Maliens pour défendre les droits des Maliens qui résident dans ces pays et les inciter à venir investir dans le pays et tout en les sensibilisant à respecter les lois dans ces pays de résidence. Là, c'est une première volonté de politique. Bon, en dehors de ça, je pense que si déjà nous avons une volonté créé pour venir investir. Ça veut dire qu'à un certain moment du temps d'immigration, il faudrait penser à revenir au pays. Donc, cela aussi peut éviter...
Est-ce que ça a été votre cas?
Bon, ça peut être mon cas, bien sûr. Bien sûr, moi j'étais au Gabon, je suis une migrante de retour. La migration, on revient à un moment donné, que ce soit volontaire ou involontaire. À un moment donné, il faut revenir au pays. Donc si ce moment donné-là fait défaut, les enfants vont venir. Ce qu'on appelle la deuxième génération, la troisième génération. Et finalement, ça va entraîner des problèmes. Puisque dans ces pays d'accueil-là, nous nous rendons compte maintenant que même ces pays font face à des difficultés économiques. Donc, si toutefois dans ces pays, un migrant et un ressortissant de ce pays, vous trouvez en face d'un appel d'offres de travail, la priorité est donnée aux ressortissants de ce pays. C'est ce que nous vivons maintenant dans ces pays-là. Et la migration au Mali, elle est sud-sud, c'est en Afrique ici. C'est en Afrique.
Alors, autant
comme l'a
avons...
dit monsieur le ministre, 80% des Maliens de l'extérieur vivent dans les pays africains. 5%, c'est en Europe. Non, 10% en Europe. Et le reste est à travers le monde. Donc, s'il y a une solution à prendre, la solution, c'est d'abord en Afrique.
Avant d'aller.
Les autres continents. Et même cette immigration irrégulière-là, qui défraie les chroniques, c'est parce que maintenant, les choses sont bien médiatisées. C'est la mondialisation. Sinon, auparavant
c'était plus compliqué.
Et beaucoup de Maliens sont morts dans les eaux entre le Cameroun, le Gabon, le Congo, RDC, l'Angola, etc. En Afrique centrale et australe. C'est des pratiques qui ont toujours existé. Mais nous nous rendons compte maintenant qu'avec la médiatisation, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Voilà.
D'accord.
Donc, je pense qu'il faut que les Maliens résidant à l'extérieur comprennent qu'à un certain moment donné, il faut revenir dans son pays. Nous partons pour chercher le mieux vivre, mais nous avons des potentialités ici au Mali, des potentialités énormes, même dans la première région qui est réputée être la zone de départ. Il y a des potentialités. Je pense qu'avec l'application de la politique de la migration, nous pouvons vraiment freiner même la migration irrégulière.
D'accord. Merci beaucoup, Madame Diarra Mariam Savané du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Nous allons voir avec l'Association malienne des expulsés si les conditions que Madame évoque sont toujours respectées pour respecter justement le travail que les Maliens font sur place dans ces pays d'accueil-là pour renflouer l'économie. Monsieur Diarra Ousmane.
D'accord. Merci beaucoup. D'abord... Je viens de comprendre avec à travers le ministre, et je le remercie beaucoup, que des Maliens de retour involontaires
sont pris en charge,
sont pris en
bénéficient
charge.
De programmes voilà. de réinsertion.
Comme je vous dis, tous les Maliens de l'extérieur qui viennent dans les conditions involontaires, le lendemain de leur retour, soit ils sont logés au niveau de la protection civile, soit où ils se trouvent dans Bamako, le lendemain de leur retour, revient taper la porte de l'AME. Donc, cela veut dire que, et nous, on ne savait pas qu'il y a des prises en charge ou des bénéfices des
expulsés.
Voilà, donc, à partir de ce moment, on va changer notre plaidoyer pour mieux indiquer là où on peut trouver des aides.
Vous aurez attentif, j'espère.
Oui. Je suis un Malien expulsé de l'Angola en 1996. Je connais bien l'Angola. J'étais en Afrique centrale. J'ai fait beaucoup de pays de l'Afrique centrale. J'étais un peu en Europe. C'est pour cela qu'on a eu l'initiative de créer cette organisation. En Angola, en 1996, il n'y avait pas le ministère de Malien de l'extérieur, mais il y avait le délégué général de Malien de l'extérieur, qui est même venu en Angola pour sensibiliser les Maliens de l'Angola.
Et c'était plus compliqué à cette époque que maintenant?
Beaucoup, beaucoup compliqué, parce que D'abord, il y avait, c'était un Malien qui était à la médiatisation, qui faisait la médiation entre le rebelle et le gouvernement à l'époque, qui était maître Alou Blondebeuil. Il y a eu plein de choses qui s'est passées. Nous sommes retournés. C'était plus de beaucoup de Maliens. Les conditions de détention, j'étais victime, je connais. Et aujourd'hui, on était alerté par des Maliens de l'Angola. D'ailleurs, l'AME et l'Amnistie Mali et l'AMDH, on a fait même une déclaration.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec les mots du ministre par rapport à cette situation des Maliens de l'Angola?
Oui, je peux être d'accord parce qu'il y a les diplomates.
Vous l'êtes ou pas?
Je suis tout à fait d'accord.
D'accord.
Alors... un ministre, c'est un ministre. Hein. Donc, je suis tout à fait d'accord que
ouais, les conditions ont changé, mais se sont améliorées.
Il faut savoir, du jour au jour, nous, à l'AME, on a des coups de fil des migrants maliens qui se trouvent partout dans le monde. Pas seulement en Angola, même dans les pays de guerre, dans les pays du Golfe. Ils nous appellent pour nous parler de leurs conditions de vie. On a beaucoup sollicité et saisi le ministère des Affaires étrangères pour qu'ils puissent contacter les représentants diplomatiques maliens
qui sont sur place.
Donc, on ne peut pas rentrer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Merci
mais
de
madame, ce que madame vient de dire, effectivement, c'est vrai. Le Haut Conseil de Malien de l'Extérieur, et moi, je peux dire, tout le Malien peut adhérer s'il y a des vraies campagnes de sensibilisation, même s'il ne parvient pas à payer les cotisations, parce que les conditions et les gains, c'est-à-dire... la chance des Maliens ne sont pas les mêmes. Il y a certains Maliens qui ne peuvent pas trouver la cotisation de Haut Conseil, qui ne peuvent pas prendre les cartes du Haut Conseil. Peut-être qu'ils n'est pas considéré comme... voilà, donc...
Alors, Ousmane Diarra, vous êtes de l'Association Malienne des Expulsés. Le plus difficile avec vous dans ce débat, c'est que vous faites dos à l'horloge et moi, je l'ai en face de moi. Donc, je vais passer la parole à M. le ministre pour son dernier mot. Non, alors, M. le ministre, docteur Abdramane Sylla.
Oui, vous avez évoqué tout à l'heure un problème très sérieux quand vous avez évoqué le mot identité. Il est vrai... ce que je voulais dire à la suite de Mme Diarra, le monde a changé, il faut s'y convaincre. Ce qui était possible hier
ne
l'est pas aujourd'hui et ne le sera pas davantage. Donc les États de plus en plus se referment autour d'eux-mêmes, surtout les États nantis, compte tenu de tous les éléments qu'ils viennent d'apporter tout à l'heure. Maintenant, je voulais dire que le problème de l'identité est un problème sérieux. Et qui nous préoccupe également, parce que en évoquant tout à l'heure deuxième génération, troisième génération, ce sont évidemment des Maliens qui, s'ils ne gardent pas le pied au pays, ils risquent de perdre nos valeurs les plus fondamentales. Donc pourquoi aujourd'hui cette question également est intégrée dans notre document de politique nationale migratoire, qui tente et qui cherche à apporter une réponse à cette question de l'identité, sans laquelle je pense qu'on peut peut-être perdre une bonne partie de nos compatriotes de cette façon, du moins culturellement.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. Une émission qui parlait de l'émigration et de son bilan au Mali. Nous recevions, comme vous l'avez entendu, le docteur Abdramane Sylla, ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine. Également avec Monsieur le ministre Ousmane Diarra de l'Association Malienne des Expulsés et Madame Diarra Mariam Savané du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur. Le point développé dans ce débat, le point sur l'émigration, les conséquences de l'émigration et enfin la contribution de la diaspora à l'économie malienne, nous l'avons vu, elle est estimée à plus de 8,3% dans le produit intérieur brut. Nous sommes donc à la fin. Je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission, Nouhoum Diré était à la technique et Salim Douara était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
Ouamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.